Peut allumer le PowerPoint. C'est génial, c'est déjà notre troisième fête de Noël de l'année. On a fêté Noël il y a une semaine en église avec les enfants, avec l'école. Dimanche matin dernier, une super célébration aussi. Et puis ce matin encore, on continue. Alors, j'allais dire, presque tout a été dit, hein. Mais je crois que c'est difficile de prendre un autre thème que Noël le jour où on célèbre Noël, quoi. Donc on va encore en reparler. Et j'ai voulu mettre, avant qu'on lise ensemble la Bible, j'ai voulu mettre ce verset de l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 32. C'est une parole de quelqu'un qui accueille l'enfant Jésus dans ses bras. Et quand il accueille cet enfant Jésus dans ses bras, l'esprit prophétique vient sur lui et il dit voilà, celui-là, c'est celui qui est la lumière pour éclairer toutes les nations et c'est la gloire d'Israël, son peuple. Alors en dessous, ce n'est pas la traduction. Hein. Vous avez vu la photo, à quoi elle ressemble avec Joseph qui a les trucs, là, les papillotes, je ne sais pas comment on appelle ça, sur le côté. Mais en dessous, c'est marqué tout simplement Yosef, Mariam, Yeshua, Joseph, Marie et Jésus. C'est cette histoire dont on va reparler ce matin. Je voulais qu'on lise en premier. Si vous avez vos bibles, vous pouvez le prendre. Dans l'évangile de Luc, l'évangile selon Monsieur Luc, docteur Luc. Au chapitre 1. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui en ont été les témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. J'aime beaucoup cette introduction de l'évangile de Luc. On pourrait faire tout un message dessus, mais juste je veux souligner une ou deux phrases. En tout cas, le but au verset 4, c'est afin que toi, qui entends ce message, tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. L'évangile, ce n'est pas des sornettes. L'évangile, ce n'est pas une belle histoire, ce n'est pas un mythe. C'est la certitude de ce qui s'est vraiment passé. Et je trouve que c'est intéressant quand Luc dit, ben, il y en a plusieurs qui ont déjà commencé à écrire cette biographie de Jésus, de tout ce qui s'est accompli parmi nous. C'est bien sur cette terre, ce n'est pas un évangile du ciel qui nous a été envoyé où Dieu a envoyé les anges distribuer des tracts sur la terre pour parler du ciel. Non, 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 des événements concrets qui se sont passés là. Et ce sont des témoins oculaires. Ce sont des témoins oculaires qui ont décrit ce qui s'est passé. C'est une réalité. Alors Luc dit, ben moi aussi, il m'a semblé bon de faire des recherches exactes. Alors, vous savez que Luc était médecin. Les médecins, à l'époque, je ne sais pas quelles études scientifiques ils faisaient. Ça devait être un peu relatif, mais bon, quand même, il y avait cette ébauche de science, de recherche. Et je trouve que quand Luc dit « j'ai fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis le commencement », eh bien, on est là face à un témoignage intéressant. Témoignage de quelqu'un qui nous dit « attends, c'est vrai. Ce que tu crois, peut-être depuis que tu as été élevé, comme Thomas disait, hein, qu'il est né dans une église presque, ou que tu débarques dans une église par hasard comme ça un jour de Noël, ce que tu entends, c'est vrai. Ce que tu crois, c'est vrai. C'est la réalité, c'est la vérité. » Alors, une petite généralité sur les fêtes, puisque là, on passe ce week-end, c'est un week-end de fête, et je voulais revenir un petit peu sur ce sens de fête. Quand les chrétiens célèbrent la Pâque, célèbrent Pâques et célèbrent la Pentecôte, En fait, et tous les ans on le fait, de célébrer Pâques, de célébrer Pentecôte, en fait, tous les ans, les chrétiens célèbrent des fêtes qui ont été prescrites dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ça suit des fêtes qui existaient avant que le christianisme existe, et les chrétiens les célèbrent tout en réinterprétant en leur sens, tout en donnant un sens prophétique, un sens différent qui s'est accompli en Jésus. Par exemple, pour la fête de Pâques, on se souvient que c'est la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage grâce au salut, j'allais dire, et à la vie sauve grâce au sang d'un agneau qui est appliqué sur les maisons. Et le christianisme va nous dire ça, c'est l'image de la sortie de l'esclavage du péché et de la perdition grâce au sang de l'agneau, l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever le péché du monde. Quand on célèbre Pentecôte, on célèbre aussi une fête prescrite. C'est la fête du don de la Torah, du don de la Bible au peuple d'Israël, et c'est la fête de la moisson. Et quand les chrétiens célèbrent Pentecôte, on célèbre quelque chose qui est prescrit, j'allais dire, à la suite du peuple d'Israël. On célèbre la réception de l'Esprit et aussi la moisson d'âme qui commence dans le monde entier et pas seulement en Israël. Donc les chrétiens se situent dans la continuité des fêtes de l'Éternel qui sont célébrées par le peuple d'Israël. Et ils en soulignent l'accomplissement de ce que ces fêtes avaient de prophétique. Alors, on peut se dire, ouais, mais Noël, et j'en ai déjà touché un mot la semaine dernière, est-ce que c'est bien de célébrer Noël ? Je me souviens, quand j'étais jeune converti, on était dans une église un petit peu radicale, et on disait, non, mais il ne faut pas célébrer Noël, c'est devenu une fête païenne, c'est l'argent qui coule à flot, c'est les cadeaux, on oublie le petit Jésus, et puis, ou alors il est vraiment tout petit, le petit Jésus, et puis voilà, on se donne bonne conscience. Et on était dans une église qui disait effectivement, bon, c'est tous les jours Noël. Et c'est pas complètement faux. Mais la fête de la Nativité, c'est devenu une tradition, donc c'est une tradition qui a été postérieure au temps apostolique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de justification biblique, ce fait de célébrer un jour particulier où on célèbre la naissance de Jésus. Les apôtres, la première église, le premier siècle, n'a jamais célébré ça. Mais avec le temps qui passait, 10 ans, 30 ans, 90 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans, il y a des personnes qui ont commencé à questionner l'historicité et l'humanité de Jésus. Et toutes sortes de fausses doctrines ont commencé à... Oui, il faut que je change de pile. À questionner donc l'historicité et même l'humanité de Jésus. Et donc les chrétiens se sont dit que la meilleure façon de transmettre la vérité sur l'incarnation du Fils, c'était de créer une fête de rappel annuel. Parce que vous savez que quand on crée comme ça des rappels réguliers, eh bien, le but, c'est la transmission de génération en génération. Ce matin, parmi nous, il y a plusieurs générations qui sont là. Et avant nous, il y a eu des générations. Eh bien, pour que cette tradition, cette vérité se perpétue, il y a cette tradition de la fête de Noël comme un rappel annuel qui a été créé. Alors, la date a été choisie de façon, j'allais dire, pas tout à fait aléatoire, parce que l'histoire n'a pas retenu la date de la naissance de Jésus. En tout cas, c'est probablement pas le 25 décembre. Mais la date a été choisie au solstice d'hiver, c'est-à-dire quand les nuits commencent à raccourcir et que les jours commencent à s'allonger. Je ne sais pas si vous avez vu la différence depuis le 21, où on est passé au solstice d'hiver, mais les journées rallongent. Alléluia, on va vers l'été, on va vers le plein soleil. C'est génial. Eh bien, Noël, c'est cette image-là. C'est les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais il va y avoir la lumière qui commence à poindre et qui monte et qui monte. Et d'année en année, de plus en plus d'humains, d'hommes, de femmes, découvrent la lumière. Et ça, c'est extraordinaire. Et on peut croire qu'aujourd'hui, des gens vont naître de nouveau parce qu'ils vont entendre l'Évangile. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je voulais ce matin donner quelques particularités par rapport à ce côté historique, ce côté enraciné de la fête de Noël. Parce que parfois, on a célébré Noël, mais on l'a célébré totalement déraciné. Vous savez, il y a ce chant populaire qui disait que Jésus est né en Provence. Voilà, ça c'est un chant, c'est une chanson ancienne, mais ça montre bien parfois le déracinement de la fête de Noël. Or, la venue de Jésus, elle a été conforme aux exigences de la loi de Moïse. Elle s'est enracinée dans les révélations précédentes, dans la révélation unique. Jésus, par exemple, a été circoncis le huitième jour. Son nom a été, on en parlait hier en famille, je disais son nom était dévoilé dans le peuple juif. En fait, le nom de l'enfant, on ne le connaît pas le jour de la naissance. On ne le connaît pas le lendemain, on ne le connaît pas le surlendemain. C'est le jour de la circoncision qu'on dit, alors, comment il s'appelle ? Eh bien, lui, il s'appelle Jésus. Et c'est le huitième jour que son nom a été dévoilé. Quelques semaines après, à un mois, il a été présenté au temple. Pourquoi fallait présenter au temple Jésus, au bout d'un mois? Simplement pour suivre la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, il était dit que tout premier-né du peuple, mais que ce soit parmi les humains, que ce soit parmi les animaux, etc., tout premier-né était consacré à l'Éternel. C'est comme s'il était donné à l'Éternel. Et alors, il y avait cette cérémonie au temple de Jérusalem où on amenait l'enfant, où on le présentait à Dieu, et on le rachetait, c'est-à-dire qu'on offrait quelque chose à Dieu pour pouvoir quelque part récupérer son enfant, pour bien prendre conscience que nos vies, nos familles, nos enfants, nos animaux, nos biens, tout ça, c'est pas à nous, c'est à Dieu. Et ça ne nous est que prêté. C'était une cérémonie importante, le rachat. Et c'est une cérémonie que les Juifs pratiquent toujours aujourd'hui. Jésus, on le retrouve à 12 ans dans le temple pour une espèce d'équivalence d'une bar mitzvah. Il est là avec les sages d'Israël et puis il discute sur la loi, il interroge sur la loi et puis il nous est dit qu'ils étaient tous complètement ébahis de sa sagesse et de sa connaissance. À 30 ans, on le retrouve. 30 ans, c'est l'âge. Nicolas nous avait fait un magnifique message là-dessus. C'est l'âge où celui qui devait devenir prêtre, entrer dans le sacerdoce en Israël, rentrait. C'était à 30 ans. Et à 30 ans, il y avait une cérémonie qui était au temple, qui était de baigner. Il y avait un bain rituel qui était fait. Et Jésus a manifesté ça quand même. C'est à 30 ans, pour entrer dans son ministère, qu'il a été baptisé, immergé, qu'il a vécu ce bain rituel. Lui, il n'en avait pas besoin. Les autres du peuple en avaient besoin pour être lavés des péchés. Nous, on a eu besoin d'être baptisés, mais Jésus n'en avait pas besoin. S'il l'a fait, c'était en écho à ce bain pour entrer dans le ministère. Et il a été fait baptiser, il a été baptisé par un descendant d'Aaron. Vous savez que pour être prêtre, il fallait descendre d'Aaron, le frère de Moïse. Jésus, peut-être il n'aurait pas eu besoin de ça, ou pour nous chrétiens, on se dit, bon, il n'y a pas besoin, Jésus, il est ce qu'il est, il est le Fils de Dieu, il est Dieu incarné, il a tout pour. Oui, mais il n'est pas né n'importe où, dans n'importe quelle ville, ni dans n'importe quelle famille. Jésus est descendant de David, par son père légal. Parce que Jésus est le roi d'Israël, le roi des rois, le roi du monde. Et pour être roi et être sur le trône de David, pour accomplir les promesses, il fallait qu'il naisse de la descendance paternelle du roi David. C'est le cas. Joseph, son père légal, était de la descendance de David. Il y a même encore une précision que je trouve assez extraordinaire, c'est que Jésus, pour être prêtre, selon la loi, eh bien, il devait aussi descendre d'Aaron. Et c'était compliqué de descendre à la fois d'Israël, à la fois de David et à la fois d'Aaron, parce que c'était deux tribus différentes. Comment faire ? Eh bien, le Seigneur s'est débrouillé et il l'a fait descendre d'Aaron par Marie. Vous vous souvenez qu'il est dit qu'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, c'était une parente d'Aaron. Et donc, si Élisabeth et Marie étaient de parenté, ça veut dire que vraiment, et Marie était aussi de descendance d'Aaron. Et donc, Jésus est légalement roi de la descendance de David, et il est légalement prêtre de la descendance de Marie. Même si, en plus, la Bible nous dit, mais c'est une autre histoire, qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Mais ça renvoie à autre chose. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement de dizaines de paroles prophétiques. Un jour, après sa résurrection, Jésus est mort, ressuscité, puis il rencontre ce qu'on appelle les pèlerins ou les disciples d'Emmaüs. Et il y a tout un dialogue de sourds au départ qui commence. Et puis à la fin de ce dialogue de sourds où Jésus va commencer à se révéler à eux, il va leur dire, Luc 24, 25, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, ce n'est pas une insulte, hein, c'est pour leur dire, mais vous n'avez pas compris, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et en commençant par Moïse, c'est-à-dire par la Genèse, et en passant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus avait le souci, face à deux de ses disciples qui n'avaient pas compris et qui étaient tristes de la mort et de la disparition de Jésus, il a eu le souci de reprendre la Bible et depuis la Genèse jusqu'à deux chroniques, puisque dans la Bible juive, c'est orienté comme ça, de tout reprendre, tous les prophètes, pour dire voilà, il fallait que ça s'accomplisse. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé qu'il y a au moins, il y en a plus, hein, mais il y a au moins 43 accomplissements prophétiques qui étaient prédits des centaines d'années à l'avance. Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas lire ce matin les 43 prophéties que j'ai trouvées, hein, parce qu'on a d'autres choses à faire aujourd'hui, mais j'en ai choisi deux. Deux qui ont été donnés 7 siècles avant la naissance de Jésus, deux qu'on connaît assez bien, je pense. Ésaïe 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Immanuel. Voici, la jeune fille, la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Dieu est là avec nous. » Quelle parole prophétique incroyable. Et puis cette autre parole dans le livre de Michée, à peu près à la même période qu'Ésaïe, 7 siècles avant Jésus. « Et toi, Bethléem, la toute petite ville, parmi les milliers de villes, les milliers de villages qu'il y a en Judée, de toi va sortir pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Je pense que quand Michée prophétisait cette parole, il ne devait rien comprendre à ce qu'il racontait. Dieu lui demande de dire qu'à Bethléem, une ville insignifiante, petite, mais grande par son histoire, puisque le roi David était de cette ville-là, va naître dans cette petite ville celui qui va dominer sur Israël. Jusque-là, ça semble logique, mais dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quoi ? Ce petit bout de chou qui va naître, on le sait nous, dans une crèche, dans une étable, il n'y a pas de place pour lui, ils sont là, sur un strapantin, j'allais dire, à Bethléem. Celui-là, son origine, ça remonte dans l'éternité. Waouh ! Incroyable ! Et la naissance de Jésus, enfin, c'est une nouvelle dimension. on en a touché quelques mots. Pendant les 3 ans de son service, Jésus va démontrer en parole et en acte qu'il est bien le Messie attendu et que dans sa personne, c'est le ciel qui visite la terre. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est une nouvelle dimension. C'est pas nouveau dans le sens où ça abolit ce qu'il y avait avant. C'est nouveau dans le sens où ça parachève, où ça illumine, où ça éclaire ce qu'il y avait avant. Le ciel a visité la terre. Et c'est ce qui a fait que tous ceux qui ont vu le bébé Jésus et qui avaient l'esprit prophétique, et il y en avait beaucoup, et pour ceux qui n'avaient pas l'esprit prophétique, parfois c'est les anges qui sont apparus, par exemple aux bergers, etc. Ils ont magnifié Dieu parce qu'ils ont vu que dans ce petit bébé, il y avait quelque chose d'incroyable. Il y avait une troisième dimension. Vous savez, c'était comme s'il y avait une projection du ciel là qui venait sur la terre. Et sa venue ouvre aux hommes et aux femmes, donc à toi, la possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle naissance. Il y a une page blanche qui est possible pour ta vie si tu viens à lui et que tu deviens son disciple. Et ça, c'est le message que beaucoup vont entendre aujourd'hui. Mais c'est un message qui est toujours d'actualité pour nous, les chrétiens. Parce que aujourd'hui aussi, j'allais dire, effectivement, on peut dire que c'est tous les jours Noël. Parce que Jésus vient à nous encore aujourd'hui. Et que ce soit le 24 décembre ou le 25 janvier, Jésus vient à nous. Et on peut encore s'approcher de lui. Et il peut encore écrire dans nos vies des pages blanches. Parce que même quand on le connaît, il y a des fois où nos pages, elles sont pas mal raturées. Où il y a peut-être des tâches qui ont été faites. Et le Seigneur nous rappelle ce matin. Tu sais, si je suis venu comme un bébé il y a 2000 ans dans un monde enténébré, je peux encore venir dans ta vie alors que tu es mon enfant. Et je voudrais vraiment qu'on finisse ce moment simplement en s'approchant du Seigneur, en réfléchissant peut-être à nos bien-aimés qui ne connaissent pas encore Dieu, à prier pour eux, pour que vraiment la lumière de Noël se fasse dans leur vie, mais aussi pour nous-mêmes, qu'on puisse regarder dans nos vies, dans tel domaine, aujourd'hui, je peux écrire une page blanche pour toi. Aujourd'hui, il y a une page blanche qui s'ouvre, parce que chaque jour, les grâces de Dieu se renouvellent. La parole de Dieu nous le dit, chaque matin, ses bontés se renouvellent. Aujourd'hui, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça, c'est extraordinaire. Je vous invite à prier un instant. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles ce matin que tu n'es pas hors sol, que tu as voulu être enraciné sur cette terre, que c'est bon de vivre avec toi sur cette terre, que c'est bon d'être connecté avec toi sur cette terre chaque jour, que c'est bon de lire ta parole, de connaître les promesses, parce que, Seigneur, j'ai cité certaines des promesses qui se sont déjà accomplies, mais il y en a tellement encore qui ne se sont pas accomplies et qui vont s'accomplir. Seigneur, nous attendons ta venue. Nous attendons ton retour, Seigneur Jésus. Et il est bon pour nous de suivre ta parole, d'être tes disciples, de marcher dans tes voies, de gagner d'autres âmes à Christ. Seigneur, on te prie pour ce parcours alpha qui va démarrer bientôt. Seigneur, on te demande de nous faire la grâce à chacun d'entre nous de pouvoir inviter 1, 2, 3 personnes. Fais-nous penser à ça cette semaine, dans les semaines qui viennent. Seigneur, tu es la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Ta venue non seulement dans une crèche, mais ta venue dans un cœur, Seigneur. Et Seigneur, merci parce qu'à nous aussi qui sommes tes enfants, depuis peu de temps ou depuis très longtemps, tu nous ouvres encore une page blanche. Seigneur, on va bientôt commencer une nouvelle année. Et cette nouvelle année, ce sera comme une page blanche où on a des choix, où on va pouvoir faire des belles choses avec toi, où on va pouvoir écrire de belles histoires avec toi dans la vie de beaucoup. Alors Seigneur, merci. Merci pour cette page blanche que tu ouvres dans nos vies. Merci parce que tu nous laves de tout péché quand on vient vers toi. au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon Noël, une bonne fête et une bonne année déjà par avance.